accent d'Europe, Frédéric Lebel.
During the first few hours, the raiders came boring in from two directions. They were aided by the dim light of a pale, watery quarter moon. So far, it's one of the heaviest raids for many nights.
Bonjour à tous. Quelques 1800 vétérans, les chefs d'État d'une vingtaine de pays, et au cours du week-end, 1 million de Français. Tous se sont donné rendez-vous sur les plages du débarquement en Normandie pour fêter les 70 ans de la libération de la France et de l'Europe du joug nazi. De Barack Obama à Vladimir Poutine en passant par Angela Merkel, personne ne manquait à l'appel, y compris la reine d'Angleterre, Elisabeth II, seule chef d'État à avoir vécu la guerre. L'Angleterre célébrait au même titre que l'Amérique, une Angleterre qui n'a pas besoin du D-Day pour faire son travail de mémoire. La Seconde Guerre mondiale est en effet omniprésente à la télévision, dans les documentaires ou les livres d'histoire. Une passion qui vire parfois à l'obsession pour les Britanniques, c'est le reportage de Marie Billon.
It's not a museum, it's what we call a forced development asset. It is for education.
Philippe Dow vient ici 6 jours par semaine sur la base de la Royal Air Force britannique de Norfolk à l'ouest de Londres. Il est retraité, mais il est en charge de la restauration de l'ancienne salle de contrôle de la RAF, celle qui a servi à traquer les avions allemands et à diriger les engins aériens britanniques jusqu'en 1940.
Ça, c'est une passerelle. Là en bas, il y avait des tables, la personne chargée du bureau s'asseyait sur le pupitre ici, entourée de ses aides, et au milieu, il y avait la grande carte qui servait à préparer les opérations. Quand les travaux seront finis, cette salle ressemblera exactement à ce qu'elle était le 17 juin 1940, le jour où elle a cessé de fonctionner. L'armée avait construit une autre salle d'opération moins exposée à l'autre bout de la base.
Le bâtiment est toujours debout, il n'a pas été endommagé par les bombardements du Blitz, mais il était abandonné. Depuis 2009, Richard et une dizaine de volontaires tentent de redonner vie à l'endroit.
Un des volontaires est un ancien pilote qui a servi durant la Seconde Guerre mondiale. Il a quoi ? Plus de 90 ans aujourd'hui. Il nous aide à restaurer des objets et des meubles d'époque. Nous travaillons avec la mémoire vivante du conflit.
There is still a very living connection.
But if there was a suspicion that gas had been deployed.
La salle d'opération n'est pas encore terminée, mais le bâtiment et deux petites salles remplies d'objets d'époque sont déjà ouvertes au public. Les Britanniques sont très férus de musées consacrés à la Seconde Guerre mondiale, et pas seulement de musées en fait. Certains sociologues estiment qu'ils sont obsédés par 39-45. Le sujet revient souvent dans les conversations et nombre de films et de documentaires parlent du conflit. À Norfolk, tous les vétérans et toute personne ayant participé à l'effort de guerre pourront aussi se souvenir de ces moments historiques. Philippe Dow.
Ce vieux clairon-là nous a été donné par un homme dont la mère a travaillé dans cette salle d'opération durant la guerre. Elle voulait absolument revenir sur ces lieux et son fils a été si content de cette visite qu'il nous a dit « J'ai ce vieux clairon de l'armée de l'air datant de 1940, ça vous intéresse ?»
Philippe tente de rassembler le plus grand nombre d'objets souvenirs pour créer une exposition permanente. Aujourd'hui, il y a déjà 3 vitrines consacrées à des objets nazis.
Ce brassard nazi nous a été donné par un ex-pilote dont le frère était médecin militaire. Après le jour J, il était en France et il a ramassé plusieurs objets, dont ce brassard.
Pour Richard Willis, l'officier en charge du projet, même ces vitrines remplies de croix gammées n'ont rien à voir avec une fascination malsaine.
À la fin de la guerre, beaucoup de vétérans avaient des objets nazis qu'ils ont gardés en souvenir. Il faut se rappeler qu'ils venaient de gagner la guerre, c'était des souvenirs de leur victoire. Mais beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent avec ces objets qu'ils n'aiment pas et ils préfèrent les donner à un musée.
Trois
Transformer une ex-salle d'opération en musée peut avoir du sens, mais créer des jeux vidéo où le joueur peut camper un gardien de camp de concentration est bien plus douteux. Le nombre de produits culturels ayant pour sujet la Seconde Guerre mondiale atteint des records au Royaume-Uni. Richard Grayson, professeur d'histoire à l'université de Goldsmith, estime que la Seconde Guerre mondiale influence encore beaucoup la culture populaire britannique.
Je suis né en 1969 et beaucoup de mes jouets étaient associés à la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de BD aussi. C'était pareil jusque dans les années 90 quand les figurines et les avions ont été remplacés par les jeux vidéo. Aujourd'hui, le jeu le plus en vogue est la saga de Wolfenstein. Le joueur est un résistant dans un monde où les nazis ont gagné la guerre.
Pour le professeur, les magazines ou même les applications qui permettent de suivre à la trace les bombardements du Blitz, photos d'immeubles en ruine à l'appui, permettent de rendre l'histoire plus intéressante. Si la Seconde Guerre mondiale fascine tant, c'est aussi parce qu'elle donne du Royaume-Uni une image inaltérable.
Nous sommes peut-être plus intéressés par la Seconde Guerre mondiale que la normale, mais c'est parce que notre relation avec elle est anormalement simple. Parce que, à part dans les îles anglo-normandes, nous n'avons pas été envahis, nous n'avons que des héros. Nous n'avons pas de collaborateurs. Néanmoins, si nous avions été envahis, beaucoup auraient collaboré. Mais de fait, la Seconde Guerre mondiale, pour nous, Britanniques, c'est sans aucune ambiguïté, une histoire de bons contre les méchants.
Mais sous prétexte d'avoir été les gentils, certains Britanniques en font clairement trop, avoue le professeur.
Quand l'Angleterre joue contre l'Allemagne au football, il y a souvent des références douteuses à la Seconde Guerre mondiale. Dès qu'on parle d'Union européenne, certains pensent qu'on est victime d'un complot allemand pour conquérir l'Europe comme en 1914 et en 1939. Et comparer Vladimir Poutine à Hitler, comme l'a fait dernièrement le prince Charles, c'est assez exagéré.
Quite harsh, I think.
Richard Grayson est persuadé que l'intérêt pour la Seconde Guerre mondiale va faiblir au gré des générations. Et ces parallèles douteux disparaîtront aussi. Mais il y aura alors un autre danger, qu'on oublie la menace du populisme et de l'extrême droite.
Le 12 janvier, l'armée rouge a déclenché la plus gigantesque opération militaire des temps modernes. Les chars russes surclassent les blindés allemands en nombre et en qualité. Yaks et Ilyushin ont multiplié les sorties, plus de 30 000 en quelques jours.
Et s'il est un chef d'État dont on scrutera à la loupe les moindres réactions, paroles ou poignées de main, c'est bien Vladimir Poutine, le président russe qui fêtait le mois dernier une autre libération, en mai 44, celle de la Crimée, aujourd'hui annexée par Moscou, première cause de la tension Est-Ouest à Moscou, Madeleine Leroyer.
Дорогие жители Крыма и Севастополя, уважаемые ветераны.
Convoquer l'histoire pour mieux justifier l'annexion de la Crimée, l'occasion était trop belle pour la refuser. Le 9 mai dernier, pour le défilé de la victoire, Vladimir Poutine débarquait sur le port de Sébastopol.
Je suis heureux d'être ici dans cette ville héroïque de Sébastopol pour célébrer avec vous la fête la plus importante de notre pays. Et aujourd'hui, c'est pour la base de la flotte de la mer Noire une double fête. Car il y a 70 ans, jour pour jour, la ville était libérée des occupants nazis.
Il y a 70 ans, se jouait donc en Crimée l'une des grandes étapes de la contre-offensive soviétique. Le 8 avril 1944, le général Tolboukhine lance ses hommes à l'assaut de la péninsule criméenne. Très vite, les gras des Allemands demandent l'autorisation d'évacuer, mais Hitler exige des sacrifices. Sacrifices vains. En quelques jours, l'armée rouge libère Kertch, puis Féodossia, Simferopol, Yalta et enfin Sébastopol le 9 mai 1944. Le 12 mai, c'en est fini de la 17e armée allemande. Près de 60 000 soldats sont faits prisonniers. Un revers cuisant pour l'état-major allemand. Et ce n'est pas fini. Avec le débarquement des alliés en Normandie, instamment réclamé par Staline, l'armée rouge a enfin la latitude pour se remobiliser sur le front de l'Est. Le 22 juin 1944, c'est le début de l'opération Bagration. En deux mois, l'armée rouge avance de 600 km. La Biélorussie, une partie de la Lituanie, de l'Estonie et de la Pologne repasse sous contrôle soviétique. La route vers l'Allemagne est ouverte. C'est maintenant à qui arrivera le premier à Berlin.
Vladimir Poutine, qui après s'être entretenu avec François Hollande et Angela Merkel, a aussi brièvement parlé avec Barack Obama et pour la première fois avec le nouveau président ukrainien Petro Poroshenko. « Changement de décor total, direction la Slovénie, un petit pays entre mer et montagne qui offre un terrain de sport aussi varié qu'accessible à tous ses habitants et ils le lui rendent bien. 8 médailles aux derniers Jeux Olympiques d'hiver, un record pour un tout petit pays de 2 millions d'habitants. Champion ou pas, tout le monde court, marche, randonne en Slovénie. C'est le reportage de Laurent Berthaud.
Pour comprendre l'engouement des Slovènes pour le sport, rien de tel que de les rencontrer sur leur terrain de jeu favori, la montagne. Nous sommes à une heure de la capitale, Ljubljana, et c'est Florent Gaillard, spécialiste du tourisme slovène, qui me guide.
Donc là, Florent, on vient de quitter le parking, on a laissé la voiture, on a emprunté un chemin de gravier, de terre. Et où est-ce qu'on se dirige là ?
Donc on se dirige vers Velika Planina, c'est un alpage avec des maisons de bergers en bois traditionnelles. Donc tous les Slovènes viennent une à deux fois par an, ils viennent toute l'année, l'été comme l'hiver. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils font une petite rando et puis ils vont aussi aller dans les refuges pour aller boire de la bière et manger des plats traditionnels. Et il y a plein de collines à monter, il y a même un petit système, on achète un petit carnet et en fait en haut de chaque montagne, on a un tampon et on tamponne son carnet pour dire à la fin qu'on a fait quasiment toutes les montagnes de Slovénie. Je pense que c'est une habitude qui vient au moins de l'ex-Yougoslavie.
Ce jour-là, dans une de ces auberges, nous rencontrons Lara, une Slovène accompagnée de 4 amis venus, eux, de Lettonie.
Ça rend la vie plus belle. On ne pense à rien d'autre quand on marche. Pas de stress, pas de circulation. On est dehors, au contact de la nature. On dit que les Slovènes sont dingues de sport et de nature. Moi, je ne suis pas le meilleur exemple de la sportive slovène. Les autres le sont beaucoup plus que moi. Mais comparé à d'autres pays, alors oui, je suis accro.
Accro, Luka l'est assurément. Dès qu'il le peut, il saute dans sa voiture pour aller pratiquer ses sports favoris. À 35 ans, il a laissé tomber un poste en Belgique pour revenir travailler en Slovénie et surtout profiter de sa qualité de vie.
En Slovénie, on commence à travailler vers 7-8 heures du matin et on finit vers 16 heures. Donc on a tout le reste de l'après-midi pour faire ce qu'on veut. Moi, mon truc, c'est le sport. Je fais du vélo, de l'escalade, de la randonnée en montagne, même l'après-midi, car tout est très près du centre-ville. Le vendredi, c'est le début du week-end et beaucoup d'entreprises arrêtent dès 14 heures. Tout le matériel est prêt dans le coffre de la voiture et dès 16 heures, on peut déjà être très loin au bord d'un lac, en rando, sur son vélo ou même sur une plage en Croatie.
Encouragés dès leur plus jeune âge, 75% des Slovènes pratiqueraient un sport régulièrement. Un record qui ne s'explique pas seulement par la proximité de la nature, comme le rappelle Léo Kreft, philosophe du sport.
Bien sûr que le sport est important en Slovénie. Au 19e siècle déjà, il fait partie d'une culture, d'un peuple qui pendant longtemps a survécu sans avoir l'indépendance ni son propre État. Les sports extrêmes sont très prisés ici. Alors je ne sais pas si c'est pathologique. En tout cas, il ne s'agit plus de mettre en avant l'idée d'une nation puissante, comme au 19e siècle. Cela repose plus sur le succès individuel, l'envie d'être connu.
Tina Maze est l'un des symboles de cette réussite. À elle seule, la skieuse slovène a décroché 2 médailles au dernier JO d'hiver. Des victoires qui, selon Léo Kreft, font beaucoup pour la renommée du pays.
La Slovénie a beaucoup de mal à se faire connaître à l'étranger. C'est difficile de promouvoir la culture slovène. Il y a la barrière de la langue, on ne peut donc pas mettre en avant la littérature ou le théâtre slovène. Pour le sport, en revanche, l'impact est immédiat. Les athlètes slovènes ont décroché 8 médailles au JO d'hiver. C'est plus en nombre que bien d'autres pays et c'est surtout beaucoup pour un petit pays de 2 millions d'habitants. C'est fort comme résultat et comme symbole. Ça veut dire qu'on a bien plus de bons athlètes en proportion que d'autres pays.
Des athlètes qui ont reçu un accueil triomphal en Slovénie et à côté desquels les hommes politiques adorent se faire photographier. Prestige oblige.
Les jeunes gens qui font EasyJet, ils viennent avec EasyJet, le dimanche ou le vendredi, ils besorgen sich dann irgendwelche billige drogues.
Les touristes sont-ils devenus une plaie à Berlin? Les Berlinois sont de plus en plus nombreux à le penser. Dernière en date, une jeune documentariste et son film Welcome Goodbye, qui explore les ravages potentiels provoqués par ces visiteurs du week-end. À Berlin, Julien Méchaussier.
Les touristes ne les remarquent pas forcément, mais sur les murs de Berlin, de plus en plus de graffitis expriment un ras-le-bol du tourisme de masse. Berlin ne t'aime pas, bienvenue aux réfugiés, touristes cassez-vous, ou encore plus jamais de valises à roulettes. Car Berlin accueille 500 000 touristes par jour, largement de quoi nourrir une sensation d'envahissement. Dans son documentaire à tout petit budget, Welcome Goodbye, la réalisatrice Nana Rebhan est partie à la rencontre de ces touristes sans éviter parfois les clichés. Comme ces deux jeunes filles taïwanaises qui se sont donné deux jours pour découvrir Berlin, ou encore ceux que l'on appelle ici les Easy Jet Setters, des touristes de la nuit qui ont voyagé sur des compagnies low cost et passent leur week-end dans les clubs de la capitale. Tous partagent la même fascination pour une métropole où tout semble encore possible. Au fil des ans, la carte des attractions s'est enrichie. On ne visite plus seulement les vestiges du mur et de l'ex-RDA. Les guides encouragent les touristes à s'aventurer dans les quartiers de Kreuzberg, Friedrichshain ou Neukölln, ces quartiers épicentres de la scène alternative et culturelle. Ils poussent les portes qui mènent aux arrière-cours d'immeubles, vestiges des célèbres squats des années 80. Témoin de ce changement, dans le documentaire, une artiste se croit parfois dans un zoo lorsque des touristes la photographient dans son arrière-cour aménagé en jardin. Mais avec un taux de chômage près de deux fois supérieur à la moyenne nationale, Berlin ne peut plus se passer de ses visiteurs. En une dizaine d'années, le tourisme y est devenu une industrie indispensable. Et comme le rappellent les dernières images du documentaire, même les Berlinois ont tous été, ou seront un jour, touristes.
Écoute ce disque.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Frédéric.
On avait ouvert cette émission sur Omaha Beach en Normandie et on la terminera avec Talmud Beach. Ne cherchez pas le lien entre les deux. Il s'agit donc d'un groupe finlandais.
Talmud Beach, c'est un nom un peu étrange. Le nom choisi par trois Finlandais pour enregistrer des chansons qui doivent beaucoup au blues et au folk américain. Une tradition que le groupe rehausse de son humour et d'une expérience assez particulière, puisque si Talmud Beach publie aujourd'hui son premier album, les deux musiciens qui en sont à l'origine jouent ensemble depuis 2006. Mais pendant des années, Petri Alanko et Alexis Lukander ont choisi pour scène les rues d'Helsinki et pour répertoire celui de Juice Leskinen, un musicien célèbre en Finlande. Ce sont donc d'abord ces chansons qu'ils interprètent au coin des rues, devant des supérettes ou des restaurants, avant de commencer à composer leurs propres mélodies, aujourd'hui consignées sur ce disque très réussi qui est un peu plus qu'un exercice de style.
Finlandais Talmud Beach. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslo. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur Facebook à lundi.